du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Présence Midi en direct. Nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner. Dans un instant, on va prendre l'autoroute direction Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. On parlera notamment de concerts ou bien encore des différentes propositions qui sont faites dans ce diocèse autour de la fête de l'Assomption. Pour cela, je serai avec la responsable de la communication, c'est Nathalie Chambon, qui sera en duplex depuis Bayonne. Et puis on ira dans les Hautes-Pyrénées, située à 1600 mètres d'altitude dans la Vallée d'Or, se trouve la vallée du Riumajou, et sur place, Andrzej Jankowicz a réalisé toute une série de reportages. Elle est notamment allée à la rencontre du garde champêtre ou bien encore de randonneurs dans cette belle vallée du Riumajou. Un reportage à écouter et à ne pas manquer dans ce Présence Midi. Présence Midi qui débute maintenant avec l'essentiel de l'actualité régionale, avec les titres, et les titres qui sont présentés par Clément Souroux.
Bonjour à tous. Airbus confirme son succès. Le constructeur affiche plus de 2 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre et maintient ses objectifs pour la fin de l'année. À Saint-Gaudens, un nouvel industriel se porte candidat à la reprise de Fibre Excellence. Le tribunal de commerce reporte sa décision, donc offrant un sursis aux 270 salariés. En Haute-Garonne, la sécheresse s'accentue. Le niveau de la Garonne continue de baisser et des restrictions de prélèvement d'eau pourraient être mises en place. En parallèle, une nouvelle vague de chaleur s'installe en Occitanie. Les températures pourraient dépasser les 35 degrés dans plusieurs départements, notamment dans les Hautes-Pyrénées. Enfin, à Toulouse, la ville réactive son plan anti-canicule avec des piscines à 1 euro, des parcs ouverts en soirée et des espaces climatisés accessibles au public. Voilà pour les titres de l'actualité.
Merci Clément, on vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ces titres.
Présence à Saint-Aventin, 94.
L'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, c'est avec Nathalie Chambon que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Nathalie.
Bonjour Gilles.
Vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Et on commence cet agenda avec cette belle exposition, exposition internationale imaginée et réalisée par Carlo Acutis. Et cette exposition va se trouver dans quelques jours dans votre diocèse.
Oui, tout à fait. Donc, cette exposition, elle va d'abord être du 8 au 15 août à l'église de Buzy et ensuite du 18 au 24 août à l'église de Larins. Ce sont les paroisses Saint-Michel d'Ossau et Notre-Dame d'Ossau qui l'organisent. Cette exposition, c'est vraiment une exposition conçue et imaginée par Saint Carlo Acutis. Elle présente environ 136 miracles eucharistiques reconnus par l'église à travers les cinq continents. Vous trouverez plus d'une centaine de panneaux détaillés avec des photos, des récits historiques. C'est vraiment un travail de longue haleine qu'a mené Carlo Acutis pour lister tous ces événements où c'est le propre d'un miracle eucharistique. On voit l'hostie qui se change en chair ou en sang. Et donc, comme disait Carlo Acutis, ces miracles eucharistiques, l'Eucharistie, c'est l'autoroute pour le ciel. C'est l'expression qu'il utilisait. Venez regarder et découvrir ces miracles à travers cette exposition au mois d'août, donc du 8 au 15 à l'église de Buzy et du 18 au 24 à l'église de Larins.
Voilà, une belle proposition dans votre diocèse, donc exposition sur les miracles eucharistiques. Cette exposition a été conçue donc par Carlo Acutis. On poursuit l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, direction Naï, avec la communauté des Béatitudes qui propose une session tennis et prière.
Oui, en ce temps estival, hein, quoi de mieux de pouvoir allier le sport et l'esprit. Donc c'est du 10 au 16 août, donc à Naï, à la communauté des Béatitudes. Donc temps de prière, temps fraternel, et aussi des temps d'enseignement et d'apprentissage, de perfectionnement, avec Frère Pierre, qui est un professeur de tennis expérimenté. Il vaut mieux s'inscrire sur le site de la communauté des Béatitudes. Tous les niveaux sont les bienvenus. Il faut juste venir avec sa tenue de sport.
Voilà, c'est bien précisé qu'il n'est pas nécessaire d'être un tennisman chevronné. Tous les niveaux sont acceptés. Voilà, vous l'avez dit, durant l'été, c'est un bon moment hein, pour faire une activité, pour faire une activité sportive et également allier des temps de prière. Allez, dans cet agenda, on va aller un peu plus loin dans le calendrier, direction le 15 août et la fête de l'Assomption. Et à noter qu'il y a un bel événement la veille, le 14 août, à Notre-Dame de Sarance, au monastère de Sarance.
Au monastère, oui, tout à fait, de Sarance. Donc, le 14 août, au soir, à 21h, il y a une procession au flambeau qui aura lieu dans les rues du village. Et puis ensuite, bien sûr, la messe de l'Assomption ce samedi 15 août, qui sera célébrée à 11h. Elle sera ensuite suivie d'un petit apéritif, d'un repas partagé en mode auberge espagnole. Chacun apporte un plat et on partage. Et ensuite, un concert à 15h30. C'est un concert orgue et trombone par Jean-Marie Barène et Timothée Ducharme. Et on conclura cette belle journée par les Vêpres à 18h30. Donc, venez fêter Notre-Dame de l'Assomption à Notre-Dame de Sarance.
Voilà, Notre-Dame de Sarance, ça se trouve dans la belle vallée d'Aspe. On reste avec la fête de l'Assomption et un autre événement qui est proposé pas très loin de la vallée d'Aspe, du côté de Oloron-Sainte-Marie.
Tout à fait, la messe en Béarnais qui sera célébrée à l'église Sainte-Croix d'Oloron en ce samedi 15 août à 18h30.
Voilà pour un petit aperçu de l'agenda des prochains jours pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. La suite et l'actualité, on la retrouve sur diocèse64.org. C'est le site internet du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Un grand merci Nathalie Chaumont. Voilà, je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse. Et je vous souhaite d'agréables vacances. On se retrouvera dans quelques semaines de nouveau pour des nouvelles chroniques sur Radio Présence. Bel été et bonnes vacances.
Oui, merci Gilles, tout à fait. Bon temps de repos également à vous. Et puis, je vous donne tous rendez-vous à la rentrée pour reparler de ces événements, de notre agenda, de notre diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron.
Merci Nathalie.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Bon appétit, midi passé de 8 minutes. Dans un instant, direction le département des Hautes-Pyrénées, on va vraiment prendre de l'altitude puisqu'on va grimper à 1600 mètres d'altitude, direction la vallée d'Or et direction plus précisément la vallée du Rioumajou. C'est une magnifique vallée. Sur place, il y a Androse Jankovic qui a réalisé un reportage hier sur les chemins de randonnée avec notamment Mathieu qui est garde champêtre. Tout ça, c'est à écouter dans quelques instants sur Radio Présence. Thank you. dans un peu plus d'un quart d'heure à l'actualité régionale dans Présence Midi avec Clémence Roux, mais pour le moment direction le département des Hautes-Pyrénées. Cette semaine, Androse Jankovic a posé son micro dans la vallée d'Or et hier, elle était dans la vallée du Riomajou. Reportage à écouter maintenant.
Radio Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Depuis Saint-Lary-Soulan, nous prenons la direction de la vallée du Riomajou, un territoire qui s'étend sur 14 km tout au long de la neste de Riomajou. Nous arrivons en voiture jusqu'au parking de Frédancon à 1380 mètres d'altitude et déjà dès l'aurore, il y a de l'animation. Les premiers randonneurs partent à l'assaut de l'un ou l'autre des grands sommets. Il faut dire que la vallée du Riomajou est le point de départ de quelques pics avoisinant les 3000 mètres, le pic de Berdalade, le pic de Batoua ou le port d'Ourtissetou. Tout pour ne citer que, non loin de là, quelques vacanciers s'éveillent dans un cadre bucolique. Ils ont campé ou bivouaqué pour ne rien manquer de l'authenticité du lieu. Mais justement, pour que le Riomajou demeure cet écrin tranquille, il y a quelques règles à respecter et surtout du bon sens à observer. Mathieu, le garde champêtre de Saint-Lary, est là pour ça. Dès le matin, il est présent pour sensibiliser le public.
Donc bonjour, c'est Mathieu Lognos, je suis garde champêtre sur la commune de Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est un service de police rurale, on est chargé de toute la sécurité, surveillance des espaces naturels des communes. En fait, on a un métier qui correspond à la police municipale et en plus de ça, on a tout le volet environnement. La commune de Saint-Lary est très riche en espaces naturels. Déjà, on a un petit village de montagne très caractéristique, très atypique. Et en plus de ça, on a des sites naturels remarquables. Donc la vallée du Riomajou en fait partie. On a aussi le col du Porté et on a aussi des terrains qui vont jusqu'à la réserve naturelle nationale du Néouviel, qui est un joyau des Pyrénées. Donc la vallée du Riomajou, c'est un site naturel qui est classé. Donc ça veut dire que c'est un site qui est protégé par l'État, où on a quelques missions de surveillance et de sécurisation du secteur. C'est-à-dire, on va travailler beaucoup sur la prévention, sur l'encadrement de la fréquentation. On va essayer de renseigner les gens au maximum, de veiller au bon respect des règles, donc règles de bon usage en montagne et en forêt, hein, de savoir renseigner les gens sur les itinéraires, de faire attention au feu, de maintenir les chiens en laisse, puisque sur la commune de Saint-Lary, les chiens sont autorisés en laisse sur certains secteurs. Donc voilà, pour concilier un peu tout ça avec aussi du travail du pastoralisme et les bergers en altitude, on essaie de faire au mieux pour que tout le monde s'entende et profite de cet espace naturel. Donc la caractéristique du Riomajou, c'est que c'est très accessible, vous l'avez dit. On a une petite route de montagne qui accède avec des grands parkings au sommet qui sont aménagés pour optimiser le stationnement. On y travaille encore aujourd'hui. Et ensuite, à partir de là, on a plusieurs sentiers de randonnée ouverts au public qui vont du sentier très facile à du sentier un peu plus expérimenté, qui va de la moyenne montagne à la haute montagne. Donc on a vraiment plusieurs types de publics différents. On a la possibilité de bivouaquer sur place. On a deux aires de bivouac autorisées. Donc voilà, faut faire dans les règles, mais on peut passer la nuit au Riomajou. Pour les plus frileux, il y a aussi une hospice, l'hospice du Riomajou, qui est à la fois un restaurant et un refuge de montagne. Donc là aussi, possibilité de dormir sur place.
Voilà. Alors votre travail à vous, c'est d'intervenir auprès de toutes ces personnes qui passent, qui se promènent, qui éventuellement passent la nuit, pour leur rappeler les règles, le fonctionnement, les choses à pas faire, les bons gestes. C'est ça votre rôle de garde champêtre ?
Tout à fait, on est de la police de proximité, c'est quelque chose qui est très important, on garde le contact avec les gens, on n'est pas là que pour de la répression. Malheureusement, aujourd'hui, au vu de la fréquentation, on a quand même beaucoup de missions de surveillance pour rappeler les règles de bon sens. Vous l'avez dit, on est en forêt, donc notamment les feux en cette période, tout usage du feu est interdit, la préfecture l'a encore rappelé en prenant des arrêtés précisément sur cette thématique-là. Donc on veille voilà, à la bonne circulation de l'information, à la sensibilisation des gens, et le cas échéant, on peut aller jusqu'à de la verbalisation si besoin.
C'est combien de personnes qui passent au cours d'une saison normale, on va aller du Riomajou?
Alors, il faudra se rapprocher de l'office de tourisme pour ça. Ils ont les chiffres presque exacts, on va dire. Nous, en termes, moi, je vais réfléchir en termes de véhicules, puisqu'on est là pour vérifier le stationnement des véhicules et qu'on n'ait pas des véhicules éparpillés un peu partout en montagne. Donc, tout est concentré sur les parkings. En pleine saison, plein été, c'est plusieurs centaines de véhicules au Riomajou. Donc, ça peut aller de 200 à cette période. Fin juillet, on est sur 200, 250 véhicules.
Par jour?
Par jour, évidemment. Et on peut monter à plus de 400, voire 500, la barre des 500 véhicules sur la journée en été. Donc, il faut multiplier ça par le nombre d'occupants du véhicule.
L'hiver, la vallée est inaccessible ?
Tout à fait, on a une fermeture hivernale parce qu'on est sur une vallée qui est très escarpée, donc avec des risques d'avalanche, une route qui est très 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 peu au soleil, pour ne pas dire jamais, donc qui ne dégèle quasiment jamais. Donc le risque est trop grand, donc la fermeture s'effectue au niveau de la commune de Tramezaig, bien en aval de la vallée, pour interdire le passage des véhicules et des touristes.
Qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors après, vous avez évoqué l'arrêté préfectoral qui est en cours pour cet été 2026, on va y revenir. Mais en temps normal, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que les personnes qui débarquent ici en vallée du Rio-Majou, qui sont en vacances, qui ont peut-être un peu envie de lâcher sur les règles, est-ce qu'elles sont à l'écoute et attentives quand même à ce que vous leur transmettez?
Alors la particularité des zones en montagne, c'est que les gens qui viennent sont déjà des gens avertis. On n'a pas du tout public. On a quand même un public qui vient pour randonner, qui vient pour chercher les espaces naturels et se raccrocher un peu à la nature. Donc on n'a pas forcément des mêmes problématiques qu'on va avoir en milieu littoral où on est sur une accessibilité un peu plus large. Le plus compliqué, tout est relatif, on n'a pas de tâches difficiles, mais ça va être plus les chiens qui sont problématiques par rapport à la cohabitation avec les éleveurs, les troupeaux, etc., où les gens ont du mal à attacher leurs chiens quand ils sont dans un espace naturel, parce que même pour l'animal en lui-même, c'est sûr qu'il est plus heureux quand il est détaché. Mais un chien ne dérangera pas forcément, mais quand on a 30, 40, 50 chiens par demi-journée, voire plus, des règles font qu'on est obligé d'attacher le chien. C'est vrai que c'est peut-être la chose que les gens ont le plus de mal à accepter. Tout ce qui est bivouac, regrouper des tentes dans un endroit pour éviter de les avoir éparpillés, ça aussi c'est un peu délicat pour certaines personnes parce que ce qu'ils recherchent c'est la tranquillité, l'isolement, et donc quand on les parque entre guillemets ensemble, c'est vrai que...
Ils viennent pas pour faire du camping, ils veulent être un petit peu dans leur coin, rien que pour dans leur bulle quoi.
Voilà, et la notion de camping est importante et intéressante parce que là on est vraiment sur du bivouac, on reste en zone de montagne, je le dis.
Alors, c'est quoi exactement la différence justement?
Donc la différence elle est difficile à expliquer si on se raccorde au texte. Ceci dit, on a une différence qui est notable, c'est que le bivouac, c'est une installation minime pour passer une à deux nuits. La particularité du bivouac, c'est qu'il doit être monté à partir de 19h et démonté à 29h du matin. En camping, vous laissez votre tente toute la journée, vous allez à la piscine, vous revenez. Ici, c'est pas possible. Tous les matins, il faut ranger son matériel et le site redevient naturel. La deuxième particularité, c'est que c'est l'installation minime. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement parce qu'après, c'est un peu... On voit au cas par cas, mais c'est pas d'installation de table, de chaises, de auvent, on n'a pas de musique, on est vraiment sur une installation minime pour passer une nuit. C'est des activités qui sont encadrées parce que maintenant on a beaucoup de fréquentation, donc on peut pas laisser les gens s'installer n'importe où. Pour la simple et bonne raison que, en cas de problème, on sera incapable de dire où sont les personnes à secourir. Si tout le monde s'isole en forêt, on n'aura pas l'information, on pourra peut-être pas venir en aide aux gens qui en auront besoin. Donc il y a des zones qui ont été spécifiquement délimitées pour accueillir les tentes, des zones qui ont été délimitées pour accueillir les véhicules aménagés, et comme ça on concentre tout le monde sur des secteurs plus ou moins grands, on essaie de travailler à ce que ça soit cohérent pour au moins, en cas de problème, savoir où intervenir et savoir où aider les personnes.
Alors, vous avez évoqué donc tout à l'heure l'arrêté du préfet, l'arrêté préfectoral qui est en cours pour cet été 2026, parce que c'est un été particulier, particulièrement chaud, avec un risque d'incendie élevé, et on voit ce qui se passe en France du côté des Landes. La crainte, c'est que ça puisse arriver ici, dans la vallée du Rio-Majou.
Alors oui, on est sur un milieu très boisé. Toutes les prairies, on le voit autour de nous, sont déjà bien jaunes. Alors on a eu un orage qui est passé, mais qui n'a pas forcément suffisamment humidifié la zone. Donc on est sur des couloirs un peu venteux, donc la végétation est très sèche. On voit que les arbres commencent à changer un peu de couleur. On est fin juillet, donc c'est peut-être un petit peu prématuré pour la saison. La difficulté, c'est que la vallée du Rio-Majou, pour en avoir discuté avec le chef de centre de Saint-Lary il n'y a pas très longtemps, c'est un secteur aussi qui est préservé des incendies. Il faut savoir que le dernier gros incendie dans le Rio-Majou, c'est il y a peut-être plus d'une trentaine d'années. On n'a même pas retrouvé la date encore. Donc c'est une forêt qui est...
Pardon, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui explique qu'elle a été préservée? Est-ce que c'est parce que l'humain était plus attentif ou il y a des éléments naturels qui font que cette vallée est un peu préservée?
Alors on n'a pas de recette miracle, là, sinon ça se saurait. La météo y est pour quelque chose, puisque ces dernières années, c'est vrai que les éleveurs, etc., constatent, et les habitués des vallées constatent que la végétation est plus sèche plus tôt, chose qui n'arrivait pas avant. On a des foins qui repoussent moins vite, moins denses, et on a des températures un peu plus chaudes. Donc avant, on avait peut-être un peu plus de passage. Moi, j'ai pas l'expérience, l'historique de ça, mais on avait peut-être plus de passage, l'orage, on avait peut-être une vallée plus fraîche. Et surtout, on avait moins de fréquentation. Là, on a une fréquentation qui explose, notamment depuis le Covid, où les Français ont retrouvé la nature, ont retrouvé le plaisir en nature. Donc, on a beaucoup de fréquentation et de plus en plus. Donc, moins de monde et des conditions moins sèches, forcément moins de risque d'incendie.
Donc, cet arrêté du préfet, justement, il vise à limiter l'accès dans la vallée du Rio-Majou pour limiter les risques.
Alors la préfecture insiste sur le fait de déconseiller l'accès au massif forestier. C'est difficile de trancher sur interdire ou autoriser un accès, mais voilà, en tout cas le message est clair, c'est déconseiller l'accès. Donc nous, au niveau des messages qu'on transmet à la population, c'est d'essayer de privilégier des endroits en estive moins densément forestiers pour plus de sécurité. La difficulté, c'est pas forcément, on part pas du principe que les gens vont mettre le feu, même si plus de 90% des feux sont d'origine humaine. C'est surtout si les gens se regroupent en masse au Rio Majou en plein été, si on a des milliers de personnes et qu'on a un incendie qui se déclenche, les moyens mis en œuvre pour secourir ces personnes vont être démesurés, vont être énormes. Donc moins on a de personnes à secourir et à préserver, plus simples seront les missions de secours. Voilà, alors là, il y a des plans hein, de sauvetage et de secours qui sont étudiés avec des points de rassemblement, etc. On était encore en réunion ce matin pour réfléchir à ce sujet-là. L'avantage du Rio Majou, c'est quand même, il y a une majorité du public qui se retrouve sur la piste la plus simple, celle qui va vers l'hospice. Donc on a 80% ou 90% du public qui est regroupé sur cette zone-là, sur ce linéaire-là. Le reste, on est sur du sentier d'altitude, donc on est sur des personnes aguerries, en général en capacité physique assez bonne. Donc c'est pas eux qui vont nous inquiéter le plus. Si eux, la vallée prend feu, ils sont capables de traverser l'école et de se mettre en sécurité, mais c'est plus voilà la masse de personnes à secourir. Et en complément, au niveau de l'arrêté préfectoral qui a été pris, en plus de déconseiller l'accès au massif forestier, il y a plusieurs autres mesures, donc l'usage du feu sous toutes ses formes est interdit, que ce soit la simple cigarette, de porter d'un briquet, etc. On va très loin dans les prescriptions.
Donc pas de barbecue non plus. Hein.
Donc pas de barbecue. On a un barbecue qui est maçonné sur le site, qui est sécurisé. Donc même celui-ci est interdit. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque est trop élevé. Il y a trop de monde, donc on préfère tout réglementer pour éviter les problèmes. La circulation des véhicules également est interdite dans tous les massifs forestiers en dehors des routes goudronnées.
Donc là, on ne peut pas monter au Rio Majou, à l'office du Rio Majou, au refuge du Rio Majou en voiture.
Non, voilà. Habituellement, la circulation se fait jusqu'à midi. Après, on a une route qui se ferme pour devenir piétonne et reprendre en fin de soirée. Cette année, avec cet arrêté-là, la circulation des véhicules est interdite. Donc, on peut accéder au parking de Frédancon et après, on peut faire une petite balade de 4 km à pied jusqu'à l'hospice.
Et ces règles-là, elles sont en vigueur jusqu'à quand ?
Pour l'instant, elles ont été prises, l'arrêté a été publié le 24 juillet, mise en vigueur à partir du lundi 27. La date de fin, c'est la météo qui décidera.
Les gens comprennent ?
La majorité, oui. Malheureusement, ce qui se passe dans les Landes suffit comme exemple.
J'ai une dernière question un peu plus personnelle, Mathieu. D'abord, depuis combien de temps vous faites ce travail ici en vallée de Rio Majou ? Puis, pourquoi vous faites ce métier ?
Alors, il faut partir un peu plus loin parce que je suis pas originaire de la vallée du Rio Majou, pas originaire des Pyrénées. Moi, j'ai chiné sur le bord de mer, sur la commune de Béziers. J'ai travaillé au Cap d'Agde pendant très longtemps sur des espaces naturels protégés. Je travaille dans des réserves naturelles où j'ai un peu développé ce côté protection environnement et voilà, police de l'environnement. Les choses de la vie font qu'on est arrivé dans les Pyrénées sur un très beau cadre où on a des sites naturels remarquables. Il y a plusieurs réserves naturelles. On a le parc national des Pyrénées également. Donc, en termes de protection de l'environnement, on est quand même sur des niveaux assez élevés. J'ai eu la chance de travailler au parc national pendant deux saisons et de continuer à préserver ces sites, à connaître ces territoires. Et de fil en aiguille, Saint-Lary a ouvert un poste de garde champêtre qui me convenait tout à fait, puisque c'est quand même un métier plaisant et passion de travailler dans l'environnement et de veiller à ce que tout se passe bien. Et puis le cadre est magnifique. Là, vous n'avez que le son, mais les images autour sont idylliques.
Voilà, donc il faudra venir visiter le Rio Majou peut-être quand la météo sera plus favorable, voilà, et permettra à plus de visiteurs, de randonneurs de venir ici. Merci beaucoup Mathieu, on vous laisse poursuivre.
Si je peux compléter un petit message de prévention, voilà, c'est très bien de vous rendre sur les sites naturels. Passez quand même par les offices de tourisme, renseignez-vous avant de venir en montagne, qu'il y ait des cartes avec vous, pas seulement des téléphones, parce qu'un téléphone c'est très bien, mais si tombe par terre et qu'on casse l'écran, on n'a plus de cartes. Donc voilà, prenez un maximum de précautions, renseignez-vous sur les itinéraires, renseignez-vous sur l'état de la végétation, le risque incendie, le risque avalanche en hiver. Passez vraiment par les offices, c'est des relayeurs d'informations très importants. Vous avez les maisons des parcs nationaux, vous avez les mairies qui peuvent vous renseigner là-dessus. Comme ça, au moins vous arrivez, vous savez où vous allez et vous savez ce que vous faites.
Voilà, vous avez raison de le dire, parce qu'en plus à Saint-Lary, il y a un office de tourisme avec une équipe d'accueil vraiment au top, au point. Et donc ça vaut le coup de demander conseil avant de partir se promener. Merci beaucoup Mathieu, bonne journée.
Merci à vous, à très bientôt.
Je quitte notre garde champêtre quand un groupe d'enfants, canne à pêche à la main, attire mon attention. Ils suivent un certain Damien, casquette bien vissée sur la tête, sourire jusqu'aux oreilles. Lui, c'est le garde-pêche et il est en pleine séance d'initiation de pêche à la truite. C'est le deuxième volet de cette escapade en vallée du Rio Majou.
Et on vous suit dans un instant pour cette escapade. Je rappelle que nous sommes en Vallée d'Or, dans la Vallée d'Or, c'est dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée du Rio Majou, avec Anne-Rose Jankovi qui est en reportage, voilà, tout au long de cette semaine. On va la retrouver dans quelques instants, juste après l'actualité régionale et Clémence Roux. Ce sera aux alentours de 12h30, mais pour le moment, une musique de circonstance. Voici Le Berger d'Or avec Les Santé du Moudan. Berger d'Or est dans la Vallée d'Or, dans les Hautes-Pyrénées. On va y retourner dans un instant. Retrouver Anne-Rose Jankovi qui a suivi donc des jeunes sur un parcours de pêche. Tout ça, c'est à suivre juste après le journal régional, puisque sur les pendules de présence, il est 12h30. Le journal est présenté par Clémence Roux.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, Airbus poursuit son envol. Le constructeur publie des résultats semestriels en forte hausse, avec plus de 2 milliards d'euros de bénéfices. Les livraisons d'avions progressent malgré les tensions sur la chaîne d'approvisionnement, tandis que les activités de défense connaissent une forte hausse. Airbus confirme par ailleurs ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Fibrixellence, un nouvel espoir pour l'usine de Saint-Gaudens. Un industriel français dont l'identité reste confidentielle s'est porté candidat à la reprise du site. Cette manifestation d'intérêt a conduit le tribunal de commerce de Toulouse à reporter sa décision, laissant un sursis aux 270 salariés. Cette offre concerne uniquement le site de Saint-Gaudens. La sécheresse continue d'inquiéter en Haute-Garonne. Le débit de la Garonne atteint un niveau exceptionnellement bas et des restrictions de prélèvement d'eau pouvant aller jusqu'à 50% sont envisagées pour certains usagers. Les autorités redoutent une aggravation de la situation si la chaleur persiste dans les prochaines semaines. Et justement, une nouvelle vague de chaleur s'installe sur une grande partie de l'Occitanie. Les températures pourraient à nouveau dépasser les 35 degrés, notamment dans les Hautes-Pyrénées. Les autorités appellent chacun à limiter les déplacements aux heures les plus chaudes et à rester vigilant face au risque de déshydratation. À Toulouse, la ville réactive son plan anti-canicule. Les piscines municipales proposent des entrées à 1 euro. Plusieurs parcs restent ouverts en soirée, voire toute la nuit. Et des lieux climatisés sont mis à disposition pour permettre aux habitants de se rafraîchir.
Voilà pour l'actualité régionale. Merci à Clémence Roux. Autour de l'info à 13h avec toute l'actualité nationale et internationale. Dans la prochaine demi-heure sur Radio Présence, direction les Pyrénées, avec dans une vingtaine de minutes Anne Lasserre et le regard des écrivains sur les Pyrénées. On parlera notamment du pic du midi de Bigorre, mais pour le moment, direction une autre vallée, la Vallée d'Or. Sur place, Anne-Rose Jankovic est toujours en reportage.
Elle est sur le caillou, sur l'enrochement. Tu la vois là-bas ? Vous approchez pas les enfants parce que je vous ai dit quoi ? Truite vue, truite foutue. Hein ?
Viens avec moi.
Avance-toi. Tu la vois pas la truite là-bas ? Elle est cachée sur le rocher. Alors regarde, on va prendre le fil dans la main. On prend pas le moulinet, on prend le fil dans la main. D'accord ? Là, on va lancer en amont. Hop, elle remonte, elle nous a vu. On va voir si elle n'a pas une autre. Celle-là, elle nous a vu. Je te rappelle, la truite vue. Hop, une touche. T'as senti la touche ou pas ? Non, parce que tu n'avais pas le fil dans la main. Il te faut prendre le fil dans la main. Celle-là, en plus, elle était jolie comme truite. Allez, on va réessayer. Hop là. Un peu court. Là, t'as le fil dans la main ?
Oui.
C'est bon, alors. On peut y aller.
Cette voix remplie de soleil que vous entendez, c'est celle de Damien Toussaint qui se promène, si l'on peut dire, sur les abords de la neste de Riomajou.
Bonjour.
Vous êtes guide de pêche ici, alors aujourd'hui à la vallée, dans la vallée du Riomajou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez exactement au public que vous recevez ?
Alors aujourd'hui, on a un atelier pêche au toc, pêche à la truite sur la neste du Riomajou. Ça, c'est en partenariat avec l'office de tourisme, on le fait l'été. Là, c'est des enfants qui ont entre 4 et 8 ans, en l'occurrence. On leur apprend toutes les bonnes pratiques pour pêcher la truite. On leur montre les nœuds, où sont cachés les poissons, comment les pêcher, la gestuelle. Le but, c'est vraiment de leur faire découvrir la pêche à la truite.
Et ça marche ? Il y a un public pour ça aujourd'hui, en 2026 ?
Ouais, on a beaucoup de jeunes passionnés qui d'ailleurs de plus en plus pratiquent la pêche en no-kill, donc ils viennent juste pour pêcher pour le plaisir et non pas, enfin voilà, c'est pas pour tuer le poisson, c'est vraiment pour remettre les poissons en l'eau et juste se faire plaisir de pêcher.
Donc on pêche pas pour manger le poisson ?
Pas forcément, il y en a qui le font.
Et bah vous le faites ?
Moi je le fais pas forcément non plus. C'est mes copines, les truites, non, je les remets à l'eau, j'en garde par moment, mais voilà, c'est très peu par rapport à tout ce qu'on attrape. Le but c'est se faire plaisir, d'attraper un poisson et le remettre dans de bonnes conditions. Donc là, aux enfants, on leur montre comment pratiquer la pêche en no-kill, hameçon simple, sans ardillon, mettre le poisson dans l'épuisette, se mouiller les mains avant de le toucher. En l'occurrence, là, comme il fait très chaud, éviter les manipulations hors de l'eau. Voilà, on leur montre les bonnes pratiques du no-kill.
C'est un sport, la pêche ?
Oui, parce qu'on s'attend à rester assis sur un fauteuil et attendre que le bouchon coule avec un verre à la main, et pas du tout. Là, d'ailleurs, les parents étaient assez étonnés. On part d'un point et on monte à un autre point. Donc des fois, ça arrive qu'on monte sur 1, 2, 3, 4 km et on pêche en remontant la rivière. Le but, c'est vraiment, c'est une traque. On vient chercher les poissons dans les trous d'eau, derrière les cailloux, dans les fosses. Et c'est vraiment une traque. C'est de la chasse. C'est pas du tout une pêche d'attente.
En fait, il faut faire beaucoup de pédagogie. Il y a de la technique, mais il y a de la pédagogie dans votre métier.
Exactement. Avant déjà d'attraper un poisson, il faut savoir pêcher, donc lancer une ligne, savoir monter une ligne, savoir mettre un appât au bout de l'hameçon, et puis savoir s'adapter. On a plein de techniques de pêche. Là, ce matin, on fait la pêche au toc, c'est la pêche traditionnelle des Pyrénées, la plus rapide. Et après, on va pêcher à la mouche. Alors là, il y a la pêche à la mouche, c'est plus technique. La pêche au leurre, enfin voilà, on s'adapte en fonction des milieux. Là, on fait de la pêche en rivière ce matin, on fait de la pêche en lac de montagne aussi, voilà.
Et on peut pêcher aujourd'hui, on peut pêcher en rivière, en lac de montagne, on a le droit de pêcher tout le temps et de tout.
Oui, alors après il y a une réglementation, hein. Pour pêcher déjà il faut une carte de pêche et ensuite il faut se renseigner sur la réglementation en vigueur. Donc ça, le mieux c'est d'aller sur directement le site de la PPMA locale ou sur la Fédération des Hautes-Pyrénées pour voir si c'était pas en réserve de pêche. Il y a des parcours des fois qui sont autorisés qu'à une certaine technique. Ça, le mieux c'est de se renseigner sur internet ou auprès des offices de tourisme.
Qu'est-ce qu'on pêche, la truite des Pyrénées, mais peut-être pas seulement?
Ouais, on pêche pas le saumon ici encore. Non, on a que des truites, hein. Que des salmonidés du moins. Dans les lacs de montagne, on va trouver des ombles chevaliers, des saumons de fontaine, des Christy Vomer sur certains lacs. Et sinon, après, dans tous les ruisseaux, toutes les rivières, on va avoir de la truite fario, sauvage ou des poissons qui ont été introduits pour aussi amuser les gens et qu'ils puissent attraper des poissons plus facilement.
Alors, on se dit comme ça que pour pouvoir pêcher, pour avoir le droit de pêcher, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Or, là, le Riumajou, on voit qu'il n'y a pas énormément d'eau ce matin. Sans doute que ça, c'est pas tout à fait normal. Ça n'empêche pas de pêcher?
Alors non, là, on est sur effectivement, on est sur des niveaux du mois d'août. Ça fait un peu peur. Mais pour le moment, on a une eau qui reste encore assez fraîche. On a une eau entre 13 et 14 degrés qui nous permet de pratiquer la pêche dans de bonnes conditions, malgré qu'il n'y ait plus beaucoup d'eau. Là, on est sur des rivières naturelles, c'est des sources qui alimentent la rivière. Donc, effectivement, on voit baisser l'eau à vue d'œil. La neste d'or ou la neste du Louron, ça, c'est géré par des barrages. Donc, on ne voit pas d'influence de niveau d'eau. Ouais, c'est le niveau d'eau, il est stable depuis le printemps et il lâche l'eau petit à petit. Donc, on a une eau qui est à 12 degrés. Donc, pour le moment, on peut pratiquer la pêche sans souci encore dans les Hautes-Pyrénées. Parce que je sais qu'en France, il y a beaucoup d'endroits où la pêche a fermé, ou même où il y a les rivières qui sont complètement asséchées.
Et on voit des poissons morts d'ailleurs.
Voilà, ils font des pêches électriques, des pêches de sauvetage pour récupérer les poissons et leur donner la vie ailleurs en espérant qu'ils ne meurent pas.
Donc on n'en est pas encore rendu là, ici dans la vallée du Riumajou?
Non, on n'en est pas là, heureusement. Ouais, j'espère encore pratiquer ma passion pendant quelques années. Donc pour le moment ça va et on espère qu'il va pleuvoir rapidement.
Alors vous parlez des sources qui alimentent cette neste du Riumajou. Ces sources-là, elles ne sont pas alimentées par les neiges qui ont été quand même assez abondantes cet hiver?
Non, alors la neige, oui, bien sûr, elle a rempli les nappes, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fonte, la neige, elle coule, elle part dans la rivière et puis et l'eau est partie, quoi. Donc ça a coulé au printemps et on se retrouve là avec un niveau d'eau qui baisse sans arrêt et là on est comme si on était au 20 août alors qu'on est début août, quoi.
Alors, la pêche, c'est votre passion. C'est une autre chose que d'avoir la patience pour transmettre. Ça aussi, c'est devenu votre passion, de recevoir des groupes, d'organiser des sessions pêche.
Mais c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 3 ans. J'ai 31 ans et j'ai toujours aimé être les pieds dans l'eau. Et voilà, j'ai toujours aimé aussi faire attraper des poissons à des copains ou à des gens. Donc, ça me semblait normal de continuer dans cette voie-là. Donc, j'ai passé mon diplôme, c'est un diplôme qui dure un an. Aujourd'hui, je suis éducateur sportif, moniteur guide de pêche, diplômé depuis 7 ans. Et j'amène des gens débutants jusqu'à des gens confirmés à la pêche. Donc il y a des gens qui n'ont jamais tenu une canne à pêche et qui ont 4 ans, ça peut être des enfants comme des gens un peu plus âgés. Et après, j'ai des gens qui pêchent déjà beaucoup et là, on vient les perfectionner, leur faire découvrir un milieu des fois un peu sympa dans des gorges, etc. Les amener dans des lacs de montagne pêcher la truite. Et là, on vient vraiment dans le détail. Voilà, donc on s'adapte à tous les publics.
Et vous aimez travailler avec tous ces publics-là?
Ouais, alors il faut un peu de patience parce que des fois avec les plus jeunes, on fait beaucoup de nœuds. Donc on défait beaucoup de nœuds, mais ça va, j'arrive à travailler ma patience.
Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire comment on prend contact avec vous? Comment on vous trouve?
Eh bien sur internet, on va pouvoir me trouver sous mon nom, Damien Toussaint. J'ai un site internet, pêchepyrénées-saint-lary.com. Et on peut prendre contact là, dès aujourd'hui, vous pouvez m'appeler pour vos séances de pêche de cet été ou de l'année prochaine.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Je m'apprête à laisser derrière moi le Frédancon pour grimper sous les pins et sapins jusqu'à l'hospice du Riumajou. Quand je passe devant des ânes, et ils ne sont pas là par hasard, ils font partie du décor pour le plus grand plaisir des familles. C'est ce que m'explique rapidement leur propriétaire.
Alors, moi c'est Fabien, je suis ânier, puisqu'on dit ça. La personne s'occupe des ânes au Riumajou. Depuis une bonne dizaine d'années, je suis là avec... cette année, 19 ânes qui travaillent, qui font des balades.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la race de ces ânes? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
Ouais, alors c'est l'âne gascon des Pyrénées. Et la particularité, c'est la robe noire avec le dessous du ventre blanc et le museau blanc. Voilà, ce sont des petits ânes trapus adaptés à, au portage pour aller marcher en montagne.
Donc dessus, sur ces ânes, on peut mettre éventuellement des sacs, du matériel et puis des enfants, peut-être pas des adultes.
Non, pas des adultes. Moi, je limite à 35 kilos pour préserver un peu leur santé générale, puisqu'ils travaillent tous les jours juillet, août. Et effectivement, dessus, on leur met un bas pour éventuellement mettre des sacs ou des enfants à partir de 3 ans.
Voilà. Et donc, vous laissez les randonneurs, les promeneurs partir comme ça avec, avec leur âne. Il n'y a pas besoin d'être expert ou expérimenté dans la gestion d'un animal.
Non, pas du tout. Les ânes sont vraiment habitués à faire tous les sentiers ici. Il y a 3-4 circuits ici qu'ils connaissent parfaitement. Et donc, avec quelques explications au départ, les personnes peuvent partir avec.
Alors, quand ces ânes ne se promènent pas avec les touristes, est-ce qu'ils sont là aussi pour entretenir les pâturages? Est-ce que c'est ça aussi leur fonction ici au Riomajou?
Oui, tout à fait. Ils sont à l'estive. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent ici, comme les autres animaux, les vaches ou les brebis, de début juin à, ça dépend de l'année, mais début octobre ou mi-octobre.
Voilà, et donc, ils font partie de cette zone pastorale.
Exactement.
Ouais. C'est un animal qui se complaît avec les autres animaux?
Alors, chacun fait sa vie de son côté, mais ça se passe très très bien, oui.
Vous en avez combien là en tout?
19.
Et qui sont donc tous là, tout l'été?
Exactement, tous là tout l'été. Voilà. Alors les 19 ne travaillent pas parce qu'il y a des jeunes et puis il y a aussi quelques-uns qui sont à la retraite maintenant. Mais en tout cas, ils sont tous là à la montagne pour l'été.
Qu'est-ce qui plaît dans cette proposition que vous faites aux familles? Alors je ne sais pas si vous visez que les familles, mais qu'est-ce qui fait qu'on aime se promener avec un âne?
Je pense que c'est le caractère surtout de l'âne qui est très calme, très curieux, très social, qui aime beaucoup l'attention. Voilà, et puis effectivement, ça plaît aux familles parce que ça permet aux enfants de faire une première approche avec la marche en montagne, un peu de motivation.
Oui, c'est plus facile. La carotte des enfants, c'est l'âne en fait.
Exactement, c'est l'âne, la carotte des enfants pour pouvoir marcher un peu, débuter à la montagne.
Petite question plutôt pratico-pratique, est-ce qu'il faut réserver? Combien ça coûte? Est-ce qu'il faut prévoir un temps de randonnée plus long quand on est avec un âne ou au contraire, est-ce que ça raccourcit le temps de marche?
Alors non, ça marche tranquillement, donc il faut peut-être prévoir un peu plus long que si on marchait tout seul. Il vaut mieux réserver, oui, c'est sûr. Là, nous sommes en pleine saison, donc il vaut mieux réserver. Et après, à la journée, par exemple, pour être tranquille et pas se presser, c'est 46 euros pour un âne.
Voilà. Et donc, pour réserver, comment on vous trouve?
On a le numéro de téléphone ici à l'Office du Tourisme, aussi, sur les fascicules de l'Office du Tourisme.
Voilà, donc l'Office du Tourisme Saint-Lary, c'est toujours quand même le lieu central pour toutes ces activités.
Exactement.
Merci beaucoup, bonne continuation, bonne journée et bel été.
Merci à vous.
Ce reportage vous a conduit aux portes de la vallée du Riomajou. Non loin de là se trouve une autre vallée, elle aussi mise à l'honneur dans la célèbre chanson d'Edmond Duplan, Le Berger d'Or. C'est évidemment le Moudang et nous irons à sa découverte dès demain.
Eh bien, c'est à ne pas manquer. Le rendez-vous est pris. Merci, Anne-Rose Jankovic. Voilà, qui a un reportage tout au long de cette semaine, vous l'avez compris, dans les Hautes-Pyrénées, dans la belle vallée d'Or, dans les Pyrénées. On va y rester dans un instant avec Anne Lasserre.
Présence à Toulouse, 97.9.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors aujourd'hui, on va prendre de la hauteur, puisque notre destination, c'est quand même deux grands monuments des Pyrénées.
Oui.
C'est le Pic du Midi et la Brèche de Roland.
Oui.
Ils sont magnifiques. Alors aujourd'hui, nous allons au sommet, je l'ai dit, du Pic du Midi, et nous irons faire un tour du côté de la Brèche de Roland en compagnie d'une Altesse royale, et oui, pas n'importe qui, la Duchesse de Berry.
C'est ça, Philippe. Et dès que son voyage dans les Pyrénées est annoncé officiellement, les préfets, les maires, les conseillers municipaux s'activent parce qu'il faut recevoir dignement la duchesse de Berry, qui est aussi la mère du jeune duc de Bordeaux.
Ah bah oui, on s'empresse de faire d'ultimes travaux et de prévoir des réjouissances. On organise des bals, des gardes d'honneur à cheval, on dresse des arcs de triomphe, on sable des rues, on prévoit un ou deux réverbères supplémentaires et on décore des maisons.
Wow. Oui, et en même temps, on vernit aussi des voitures. À Luchon, le bruit du canon annonce l'entrée de la duchesse dans la ville et une foule enthousiaste se presse dans les rues.
Quand elle change de département, la duchesse de Berry change aussi de cortège. Elle est ainsi au col de Peyresourde, par exemple.
Oui, c'est ce qui va se passer, effectivement, au col de Peyresourde. Il y a tout un protocole à observer.
Déjà à l'époque.
Hein. Oui.
Le protocole est un petit peu léger quand elle fait des ascensions.
Voilà. On va le voir dans un petit moment.
Dans un petit moment. Donc, on ferme les yeux et on passe un petit moment agréable à écouter votre voix. On vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
En 1828, Son Altesse Royale, Marie-Caroline de Bourbon, princesse de Naples et de Sicile, plus connue sous le nom de Duchesse de Berry, pour avoir épousé le duc de Berry, second fils du roi Charles X, séjourne pendant près de 2 mois dans les Pyrénées. Pierre de Gorce, avocat et historien, a relaté ce séjour compris entre le 18 juillet et le 31 septembre 1828, au cours duquel la duchesse de Berry accomplit des ascensions, notamment celle du pic du Midi de Bigorre et de la Brèche de Roland. Le mardi 26 août, écrit Pierre de Gorce, par un temps superbe et sous un magnifique clair de lune, dès 4 heures du matin, Saint-Sauveur est en émoi. Dans les rues, ce ne sont que gens affairés, chaises et porteurs, chevaux et voitures. Madame a décidé de monter au pic du Midi de Bigorre. Elle part à cheval et atteint ainsi le lac d'Oncée. Là, mettant pied à terre, suivie de sa chaise à porteur et tantôt en cet équipage, tantôt à pied, elle gravit les derniers escarpements du pic. À 11 heures, elle est au sommet. Jamais chaise à porteur n'avait atteint cette cime. Plusieurs personnes de bannière l'y avaient précédé et avaient dressé une manière d'arc de triomphe avec des bâtons ferrés, des serviettes et des mouchoirs formant drapeau blanc. Après avoir admiré le panorama, pris une tasse de lait, Madame redescend jusqu'au lac d'Oncée où a lieu le déjeuner. Les dames qui l'accompagnent et les gentilshommes de sa suite y participent à ses côtés. On redescend ensuite vers Barège où le cortège fait halte. Madame arrête alors les dernières dispositions à prendre en vue de la cure qu'elle va commencer dès le lendemain aux eaux de cette station thermale. À 10 heures du soir, la joyeuse caravane est de retour dans Saint-Sauveur où elle est chaleureusement fêtée. Cette excursion ne sera qu'une préparation à la grande course qu'on organise les jours suivants. Le 27, Madame prend son premier bain à Barège. Le 28, elle reste à Saint-Sauveur, car à 2 heures de l'après-midi, elle monte à cheval afin de gagner Gavarnie où elle ira coucher. À Gèdre, un arc de triomphe barre la route. Les douaniers forment la haie. On a imaginé de lancer un ballon montgolfière au moment de l'arrivée de la princesse. Le grand vent qui souffle empêche la réussite de cette attraction inédite. Madame a fort admiré la grotte de Gèdre et y a vu avec autant de plaisir que d'étonnement les truites sautant de bas en haut et remontant la cascade. Les chroniqueurs trouvent des accents si grandiloquents pour narrer cette excursion de Gavarnie qu'il convient de leur laisser la parole. Le chaos, les cascades, les aspects tantôt riants, tantôt hideux, aucun de ces effets dont la nature est si prodigue en ces lieux ne peut être comparé à l'effet moral produit à Gavarnie par la présence de cette auguste fille de Naples et de France dans une auberge de montagnards où elle a passé 2 soirées et 2 nuits dans une chambre à 4 lits occupée par elle et ses dames, tandis que l'autre chambre sur le même palier servait successivement de salle à manger pour elle et sa cour, puis de chambre à coucher pour les 5 gentilshommes admis par elle à l'accompagner et les valets de pied, piqueurs à livrer, gens de la maison, troupes de porteurs, balades d'enfants couverts de rubans, jeunes filles chantant et dansant toute la soirée sur l'herbe devant l'auberge. Le 29 août, à 4h30, tout le monde est sur pied. Une caravane d'une 50aine de personnes se dirige vers le fond du cirque. Là, tout le monde descend de cheval pour commencer par un temps magnifique, l'ascension de la brèche de Roland, si fort redoutée par tous, si ce n'est par celle qui était l'objet de toutes ces frayeurs. Tantôt en chaise à porteurs et tantôt à pied, avec la chaussure en corde des Espagnols et armée de crampons sur la glace, Madame n'a jamais donné un indice de crainte ni de fatigue, pas plus en montant qu'en descendant. Le début du pic, pendant 1h30, du bas en haut d'une muraille de roc, l'interminable et roide pente de rochers et de gazon qui sépare cette montagne des glaciers, les 3 traversées de neige glacée, fort inclinée, qu'il a fallu franchir successivement, et surtout la dernière corniche qui avait été faite dans la glace pure par des hommes armés de haches envoyés à cet effet 3 heures avant, corniche sillonnée transversalement par de profondes crevasses donnant cours à l'eau, les chutes de pierres, de rocs et d'avalanches de glace faisant fracas, rien n'a intimidé la princesse. Elle est arrivée à la brèche sur les rochers d'Espagne à 11h, suivie de ses dames et d'une multitude d'hommes. S'il a été étonnant de voir des chaises à porteurs parvenues pour madame à la cime du pic du Midi, il a été bien plus merveilleux d'en voir 5 à la brèche de Roland. Tous ont déjeuné de bon appétit sur la brèche et la descente a été longue et pénible. Son Altesse Royale, remontée à cheval au cirque, n'en a pas moins galopé dans le cours de son trajet de la cascade à l'auberge. La duchesse de Berry terminera son voyage dans les Pyrénées en visitant Bagnères de Bigorre et Luchon. Elle n'était pas toujours à cheval et circulait parfois dans une voiture tirée par plusieurs chevaux et couverte de valets de pied. Le passage retenu a été écrit par Pierre de Gorce et il a été extrait d'un article paru dans les Annales du Midi en 1936 et intitulé « 2 mois dans les Pyrénées avec Marie-Caroline de Naples, duchesse de Berry ».
Voilà Anne, grâce à notre machine à remonter le temps, nous avons parcouru les Pyrénées à cheval et en chaise à porteur.
Et en grande et belle compagnie.
Ah oui, 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 tout à fait. Pour regagner Paris, la duchesse de Berry fait halte dans une ville que vous connaissez bien.
Oui, après avoir passé 2 jours à Toulouse, la duchesse de Berry s'arrête à Montauban, où là encore, elle est dignement fêtée. Un mât de cocagne est dressé, un feu d'artifice est tiré.
Elle assiste à la messe et l'évêque de Montauban, Monseigneur Dubourg, la reconduit sous le dé jusqu'à la porte de la cathédrale. Elle visite aussi la maison royale des Dames Noires, maison d'éducation de jeunes filles.
Oui, et même si elle reste peu de temps, elle visite aussi l'école de dessin linéaire et de géométrie mécanique. Et j'en passe, car dans chaque ville, son emploi du temps est très très chargé, Philippe.
Ben, j'imagine, et puis à l'époque, on n'avait pas ce genre de visite tous les jours non plus.
Et oui.
Et la semaine prochaine, ben, nous irons à Barège, au début du 19e siècle, en compagnie d'Arnaud Abadie.
Quelqu'un du coin.
Du coin, bah, les Abadie. Il y en a des Abadie dans le coin. Alors c'est Abadie avec un B.
Un seul B, oui.
Voilà, parce qu'on a aussi des Abadie avec 2 B.
Oui, Philippe.
Voilà. Merci beaucoup, Anne Lasserre. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Sarrazin, 93.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Veillée de prière pour la paix hier à Castel Gandolfo, un moment de communion.